Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple à Carcassonne, bien sur 104.7. Et qu'on peut se retrouver sur la page Facebook de Invino ou notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable, avec notamment tout à l'heure, on accueillera Pierre Fabre pour le meilleur du Limoux, également du Languedoc, avec ce fameux château, le château de Gore. À mes côtés, comme hier, Hélène Piau. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Tout va bien depuis hier? Vous avez bien dormi? Vous avez passé une bonne matinée? Vous êtes en forme?
Écoutez, tout va très bien, merci.
Vous êtes prête pour le 14 juillet pour le... Est-ce que vous défilez cette année?
Écoutez, oui, debout sur un char.
Debout sur un char. Et vous, général Forbrack, vous allez défiler ou pas?
Moi, je vais regarder passer le défilé, mais je vais applaudir.
Très bien. Alors, pour commencer cette émission, Invino Sud Radio accueille maintenant Francine Picard, directrice générale des domaines Famille Picard. Bonjour Francine.
Bonjour.
Alors racontez-nous, vous êtes 100% Bourgogne, vous, hein?
Je suis 100% bourguignonne, oui, c'est ça. Parents bourguignons, grands-parents bourguignons.
Ouais. Et le frère est bourguignon aussi?
Ses parents sont bourguignons, donc il est bourguignon.
Bon, allez, parce qu'il est, il a 51 ans aujourd'hui.
Joyeux anniversaire, mon frère.
Comment il s'appelle, mon frère?
Gabriel.
Gabriel, comme on vous embrasse, Gabriel. Quel âge il a, 51 ans?
51.
Oh là là, il est jeune. Hélène Piau.
Et puis il est né en 70, ce qui est une magnifique année.
Ça vous rappelle quelque chose, peut-être?
Au hasard. Non, je parlais de millésime, bien sûr.
Bien sûr.
Donc, la maison a été créée, en 1951 aussi, c'est le chiffre du jour, 51, par Louis-Félix Picard, qui avait à l'époque 2 hectares de vignes. Et aujourd'hui, vous êtes, Francine, à la tête de 140 hectares. Comment on fait pour passer en 50 ans de 2 hectares à 140 hectares en Bourgogne, qui n'est pas en plus la région la plus abordable de France?
Alors, on a un grand-père et on a surtout un père très entrepreneur qui a eu une petite enfance pas très simple et qui a voulu s'en sortir absolument, qui est sorti de l'école à 14 ans et qui a travaillé dans le monde du vin, mais plutôt en tant que très, très petit, et qui avait une obsession, c'était de grandir. Donc voilà, il a acquis très gentiment et sereinement au fil des années du vignoble en Côte Chalonnaise.
Des
puis en
tout
Côte
petits
de
bouts de terrain, tout ça, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Ça fait combien, 140, dites?
140 hectares, 105 en Côte Chalonnaise et 35 en Côte de Beaune.
Ouais, c'est énorme, Philippe Aubrac, parce qu'on parle souvent de nombre d'hectares importants, mais on est plutôt dans d'autres grandes régions, par exemple dans le Bordelais. En Bourgogne, c'est beaucoup plus rare, non?
Oui, c'est d'autant plus rare que les appellations ne sont pas grandes et que pour le coup, en Bourgogne, vous l'expliquez, il y a différents endroits, différentes parcelles, différentes appellations. Dans le Bordelais, on est propriétaire d'un cru et on est sur une appellation et puis on vit avec cette appellation. Donc ça paraît beaucoup plus grand tout d'un coup, alors qu'en Bourgogne, on dit il y a quelques cuvées, cette cuvée, on en a quelques milliers de bouteilles, vous les rejetez, oui. Mais il n'y en a pas beaucoup de disponibles. Donc on a l'impression que c'est toujours petit. Et quand on additionne, on s'aperçoit qu'un certain nombre de gens
peut arriver
réussissent
à des importantes.
C'est très, très morcelé.
Avoir un grand volume, finalement.
Hélène?
Alors le challenge ne vous a pas fait peur, puisqu'après une première vie sportive, qu'on va rappeler quand même, parce qu'on n'accueille pas tous les jours à Invino une championne de France de javelot.
À combien de mètres vous l'avez lancé, votre...
À deux mémoires, hein, c'était un petit peu en dessous de 40
mètres.
Non,
mais à 40 mètres près. Hein.
À 40 mètres près, à 40 mètres.
40 mètres, quoi. Voilà. Et vous avez arrêté à quel âge, le javelot?
Juste après, parce que c'était pas non plus une passion, hein, mais c'était sympa.
Et votre mari, l'intérêt est vachement sympa avec vous, parce qu'une championne de javelot, faut... Ou alors il court très vite. Hein, c'est...
Elle sait le lancer à 40 mètres, hein, je rappelle.
Donc, oui, et puis j'ai joué au hand aussi. Alors c'est,
ah bon,
aussi j'ai un bras disproportionné maintenant. Mais
et vous continuez à faire un peu de sport?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites?
Un peu tout, du hand, du vélo, un peu de marche,
Et par exemple, piloter des avions aussi à vos heures perdues.
Oui, c'est vrai. Oui, mon père a eu la gentillesse quand j'avais 20 ans
de vous offrir
mon permis d'avion que j'ai passé en 3 mois. J'ai eu 3 enfants entre temps, donc j'ai arrêté en me disant que c'était peut-être pas bien quand mes enfants étaient jeunes.
Si, vous êtes là, vous montez là-haut.
Là, je suis en train de reprendre avec l'objectif de repiloter d'ici la fin d'année.
Grosse personnalité, hein. Hélène.
J'adore. Donc, tout ça, j'avais commencé en disant le challenge ne vous fait pas peur. Voilà, c'était ça l'introduction de tout ça. Après cette première vie dans le sport, vous avez repris en 2004 la gestion des domaines et très vite, vous avez mis votre patte à vous après votre père, votre grand-père. Et l'une de vos grandes réussites dans les toutes premières années qui ont suivi, ça a été de travailler beaucoup sur la gestion de la vigne. pour essayer de verdir un peu la façon de travailler.
Oui, bah, c'est, effectivement, j'ai expliqué que mon père était parti de rien. Donc, en fait, il se construit. Et en plus, on revient aux années 80-90, où on n'était pas forcément très vert. Et les choses se sont verdies. Et en discutant avec Divignon, en apprenant le métier, parce que moi, j'ai fait du commerce à la base. Donc, c'était assez naturel et logique de tendre vers cet objectif, de dire de faire des produits de très jolies factures, de très belle qualité, terroir. Mais le terroir, il s'ancre dans le sol. Donc, si on peut au maximum respecter l'environnement, c'est le premier objectif, tout en faisant
c'est
des
vins qualité. C'est presque un devoir. Quoi.
Voilà.
Et notamment, vous avez fait les choses alors, intelligemment, je peux le dire, et puis surtout de façon super sage, parce que vous avez fait des essais en menant certaines parcelles en tradis, d'autres en bio et d'autres en biodynamie pour voir ce que ça donnait. Alors,
c'est le bon sens bourguignon.
C'est ça. Alors justement, ça donne quoi?
C'est le bon sens paysan. En fait, c'est qu'il y a une... Alors aussi, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'il faut motiver les équipes, que les équipes viennent d'un passé qui n'est pas toujours, on parle d'ouvriers viticoles, de tractoristes, qui n'est pas dans le verdissement, on va dire. Donc aussi, c'est de les intégrer complètement dans le process. Donc il faut aussi qu'eux comprennent, et il faut même qu'eux comprennent principalement en fait, l'intérêt de la chose. Donc ça veut dire les intégrer dans le process, donc ils voient également la différence. Donc il y a une vraie réalité d'ancrage dans le sol quand on est en bio, quand on est bien dynamique, il y a une dimension supérieure que moi je nomme pas du tout ésotérique, hein. C'est un rapport à la nature qui peut être à la fois très simple, il n'y a pas besoin de prier la lune, selon moi, tous les jours, mais c'est un vrai rapport à la nature qui est intéressant, et en fait on a tout dans la nature pour nous aider à produire. Et puis les hommes y voient un grand intérêt aussi, parce qu'en fait ils rentrent dans la vigne, et c'est vrai que le fait d'avoir des produits, même s'ils sont bio et même en dynamie, on est sur des produits bio, il vaut mieux éviter de rentrer 24 heures avant, après, mais il y a un confort, le sol est léger, aérien, on a un plaisir à travailler ces vignes-là, parce qu'en fait elles sont vivantes, le végétal est vivant, et donc on a du vivant dans le vignoble, et c'est ça aussi.
Alors, côté appellation, vous avez combien d'appellations différentes?
Alors, on est majoritairement sur... Alors, on est sur 140 hectares, et en fait, on est sur 4 villages principaux. C'est du sud au nord, Montagny, Mercuré, Saint-Aubin et Chassagne. Voilà. Et ensuite, on a quelques appellations périphériques en Ruilly, en Givry, en Puligny Premier Cru et en Corton et en Beaune. Mais c'est 4 villages principaux.
Philippe Formac, un petit commentaire sur ces quatre villages qui sont de belles factures, comme on peut dire.
Montagny, qui est célèbre notamment pour ses blancs, hein, qui est vraiment super intéressant. Mercuré, qui produit un peu de blanc, mais qui est plutôt célèbre pour ses vins rouges, des pinots avec beaucoup de caractère et quelques clos, quelques crus, premiers crus extrêmement intéressants. Puis après, quand on remonte effectivement sur la côte de Beaune, en Saône-et-Loire, avec Chassagne, vous disiez... Et Saint-Romain.
Saint-Aubin.
Et Saint-Aubin, Saint-Aubin, oui. C'est pas loin, Saint-Romain, oui. Saint-Aubin.
Les deux sont très bons.
Oui, dans le quartier. Là aussi, où il y a... Alors, même si sur Chassagne, il y a des rouges intéressants, et vraiment, souvent, pas mal du tout, même, c'est que ce sont quand même des appellations qui produisent des blancs extrêmement intéressants. On a des calcaires qui donnent de l'énergie à ces vins, et des vins qui sont réputés. Chassagne-Morachet, il y a Morachet qui est là, donc ça aide aussi à faire vendre le Chassagne. Mais c'est surtout de très, très beaux vins, positionnés un peu plus haut de gamme que les trois villages précédents, bien entendu, hein, mais qui donnent des vins un peu de légende. Je pense que quand on a une entité bourguignonne, d'avoir quelques fleurons, comme des appellations comme Chassagne, c'est très intéressant pour l'ensemble du domaine.
Hélène ?
Alors, on va parler des différents domaines, on a parlé des différents endroits, on va parler des différents domaines. On commence par quoi ? On commence par au pied du Mont Chauve, on commence par le premier domaine dont on parle.
Alors, on a quatre noms de domaines sous le nom chapeau Famille Picard. C'est en fait, on m'a reposé la question typiquement aujourd'hui, mais c'est qu'en fait, c'est notre ADN. J'ai voulu garder le nom du château d'Avenay, domaine Voiric, domaine Le Verbarreau et au pied du Mont Chauve, qui est là une création, mais... pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est à nouveau, mon père est parti de ça, et donc je trouve que notre ADN est dans l'histoire aussi de ces noms. C'est pas toujours facile à expliquer, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc le château d'Avenay fait des Montagny premier cru principalement et des Ruilly premier cru. Voilà, c'est notre domaine de blanc de la côte chalonnaise. Le domaine Le Verbarreau est sur 9 hectares et demi sur Mercuré, la partie historique de Mercuré avec des premiers crus comme les Champs-Martin, les Combins, les Clos des Barreaux. On parlait, M. Forbrac, juste précédemment.
Philippe, Philippe pour les amis.
Philippe.
Bon. Nous sommes entre nous. Personne ne nous écoute, on est juste là.
Et puis ensuite, on a le domaine Voiric à Saint-Martin-sous-Montaigu, qui est juste un village à côté de Mercurey, qui là produit des mercurets et des givries principalement, qui sont plus orientés, on va dire, sur un côté un petit peu bistrot, plus aérien, plus léger. Et puis ensuite, on a le domaine de la Côte de Beaune, que j'ai nommé au pied du Mont Chauve, qui veut dire en fait au pied du Mont Rachet, parce que le nom du Mont Rachet, c'est le Mont Rachat, ce qui voulait dire le Mont Chauve. Et donc nous, on est vraiment au pied du Mont Rachet, donc du Mont Chauve.
Et alors tout ça, ça donne quoi au niveau des sous, la Francine? Parce que vous avez l'air très sympa, vous êtes très sympa, c'est mais on se méfie quand même. Combien ça coûte les sous, là, les bouteilles? Ça va de combien?
Ça va de 15 euros à plus de 100 euros, sur des Puyigny Premier Cru, les Demoiselles, qui sont juste à côté des Mont Rachet.
Et les Mercurey, on peut en parler, parce qu'effectivement, là, j'ai goûté il y a pas très longtemps un Mercurey qui n'était pas de chez vous, pas encore, mais en 2017, Chamiré, mm-hmm. c'était juste merveilleux. Quoi. Enfin, c'était...
Oui, ça goûte très bien. Puis les 2017 sont assez tendres, donc ce sont des vins accessibles. Puis les pinots qui sont sur le fruit, comme ça, sur la gourmandise, c'est vraiment très agréable.
C'est très bon. Quoi.
Et en plus, comme Mercurey, on est dans la partie donc, sud de la Bourgogne. Hein. On bénéficie aussi, je veux dire, d'un ensoleillement qui fait qu'aujourd'hui on a des jolies maturités, donc c'est d'autant plus accessible.
Oui, et Francine, donc vous créez des vins de garde ou des vins à boire rapidement, parce que la pâte du vigneron est importante quand même.
Alors, comme on a une grande surface, justement sur le domaine Voiric, ce sont des vins qui seront qui se boivent dans les assez facilement et jusqu'à 5-7 ans.
D'accord.
Et le domaine Le Vert-Barreau, où on a des crus type les Champs-Martin et les Combins, avec des terroirs qui sont plus prononcés, plus là c'est effectivement plus des vins de garde.
Donc ça veut dire quoi, 10 ans, 15 ans?
C'est oui, 10 ans, j'espère qu'entre 10 et 15 ans, c'est des vins qui se boiront facilement. Maintenant, prédire l'avenir, je pense que c'est,
oui,
c'est mon métier n'est pas sommelier et c'est pas ça.
Bon, ouais. Alors pour terminer, température de service, monsieur le sommelier, là, il ne faut pas se tromper. Hein. Ouais, à Mercurey, quoi, 4-5 degrés, Philippe, comme d'habitude. Quoi,
oui,
non
bien entendu, avec un petit coefficient.
Et des glaçons.
Et des glaçons.
Non, mais Voiric piscine, donc des vins plutôt tendres et tout, ce sont des vins qu'il faut goûter autour de 16 degrés, c'est parfait, ça monte vite dans les verres après. Ouais. Après, quand on est sur un premier cru de Mercurey, avec l'âge raisonnable qui convient, c'est-à-dire 10 ou 15 ans, on peut monter légèrement en degrés autour de 18 degrés, je pense que c'est pas mal.
Et le bon plat pour accompagner un Mercurey, là, fêter le 14 juillet.
On peut goûter juste une belle pièce de bœuf grillé. Franchement, il ne faut pas se
On se régale. Voilà. Et puis en plus, on fait ça en une fiesta avec Francine. Donc c'est paradis. Oui. Francine, merci beaucoup. Un site internet peut-être pour prendre son aimant. Vous avez des adresses? Une adresse ou plein d'adresses?
Une adresse, familiepicard.fr.
Merci beaucoup. Merci Hélène. Merci également Philippe. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas Paris pour la suite de cette émission.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, j'espère avec beaucoup de passion, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. Invino maintenant accueille un nouvel invité, Pierre Fabre, copropriétaire du château de Gard. Bonjour Pierre.
Bonjour Alain.
Vous avez commencé par l'industrie avant de trouver la voie de la raison et le vin, racontez-nous.
Eh oui, fils de vigneron du Gard. Mes parents m'ont poussé à partir dans l'industrie, donc je suis ingénieur arts et métiers, et puis il fallait que je revienne aux vignes.
Bon, et alors, qu'est-ce que ça s'est produit, quoi, un matin à 7h du mat ou à 23h, plutôt dans un état avancé, en disant j'arrête l'industrie, je reviens à un vrai métier ou pas?
Non, je pense que je devais y venir un jour, donc j'ai attendu le bon moment avec un petit peu d'argent pour pouvoir investir dans mon rêve.
Ouais. Alors, vous avez un joli accent, donc vous êtes basé où exactement?
Alors, le château de Gard est à 10 km de Carcassonne, dans l'appellation Limoux.
Oh là là là, Hélène Pio, c'est magnifique. Hein.
C'est, enfin, le coin est magnifique, ah bah effectivement.
Bah, lui aussi, il est magnifique, hein, Pierre.
Non oui, absolument. Oui. Bon, évidemment, mais tous les vignerons, toutes les vigneronnes, voilà.
C'est vrai que Francine est pas mal aussi.
Oui, puis ça va avec la passion. Quand on est passionné, on est toujours beau.
Ouais.
Donc, effectivement, Pierre, vous n'êtes pas la première génération de vignerons dans votre famille, très loin de là. Mais là où votre papa vinifiait pour une coopérative locale, vous êtes dit, allez, je reprends vraiment les vignes et je fais mon vin. Mais vous aviez tout le savoir-faire pour ça, ou il a fallu un peu aller demander autour de vous à papa ou aux copains?
Alors, je pense que j'avais quelque chose à prouver, parce que quand on a entendu parler de Margaux, de Bourgogne, et qu'on est en Languedoc, on a quelque chose à prouver. On a envie de dire, on a des grands terroirs, essayons de faire des grands vins. Voilà. Donc, il y a plein de gens qui sont arrivés avant moi, depuis je les connais tous. des grands du Languedoc. Et j'avoue qu'être ami d'Olivier Julien ou d'autres, ça aide. Et donc, le savoir-faire se partage chez les vignerons.
Philippe Forbach, on parle un peu de ça. C'est vrai qu'il y a eu, il y avait à l'époque une réputation qui n'était pas terrible pour le Languedoc. Maintenant, c'est juste merveilleux. Merveilleux. Hein. Et d'ailleurs, les prix le prouvent aussi, hein, malheureusement, pour nous, consommateurs. Il y a eu un petit changement. Hein. Il y a eu un changement dans la mentalité des gens. Quoi.
Bah, c'est-à-dire que le Languedoc était une terre viticole depuis très, très longtemps. Et pendant toute une période, ça a été le besoin de la consommation était de
la quantité.
Des volumes de production. Donc, on parlait de degrés hecto. Il fallait faire des volumes. Et ça a bien réussi, d'ailleurs, dans toute une époque.
Bien
à la région qui a fait fortune avec tout ça. Et quand on voit les propriétés, les châteaux, les folies du côté de Montpellier ou d'ailleurs, ou les très belles propriété ailleurs, on s'aperçoit qu'effectivement, ça a été très florissant. Puis après, il y a eu une dégradation, j'allais dire, un peu de la demande concernant ce style de vin, vraiment plutôt d'entrée de gamme. Et donc, un certain nombre de vignerons, Olivier Julien en fait partie, mais Aimé Guibert de la Vessière, ou d'autres plus récemment, comme Laurent Vaillet, qui nous a malheureusement quitté assez rapidement, ou un peu trop tôt en tout cas, ont montré la voie, effectivement, de la qualité. Et surtout, l'expression de terroir particulier. Il s'est plus le Languedoc, voire le Languedoc-Roussillon, c'est encore plus large. Aujourd'hui, on parle effectivement du secteur de Limoux, on parle du secteur d'Aniane avec les terres Urlazac, le Mont Piro, le Pic Saint-Loup, etc. On a identifié, ou la Clap ou autre, des zones particulières avec une identité forte. Et ça, c'est super valorisant.
Hélène ?
Alors, justement, les terroirs de Pierre Fabre sont au château de Gord, donc sur deux endroits bien différents. Vous avez 40 hectares autour de Limoux, et puis 26 hectares sur les terroirs de la Tour de France et Tautavel. Donc, ça nous donne des vins forcément très différents.
Oui, alors Philippe a parlé de grands terroirs et il n'a pas parlé du Roussillon, parce que c'est vrai qu'on parle du château de Gord en tant que Languedoc, puisqu'on vinifie des raisins du Roussillon à Limoux, ce qui veut dire qu'on passe dans un AOP Languedoc et non pas Roussillon.
Donc mais vous allez chercher des raisins pour des petites voitures, voilà, discrètement.
Voilà. Ce qui se fait dans d'autres régions normalement ne se fait pas dans le Languedoc-Roussillon, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du Côte du Roussillon au château de Gord qui est à côté de Limoux, ce qui se ferait plus naturellement dans d'autres régions. Et donc, on vendange à la main, on a un petit camion frigorifique et on ramasse les raisins, on ramène les raisins au château. Mais donc, nos vignes qui sont dans un magnifique endroit qui est la vallée de la Glie, autour de la Tour de France et autres, sont sur du schiste à 300-400 mètres d'altitude. Donc, c'est des terroirs d'exception. Et donc, ça, c'est notre terroir de rouge. Et autour de Limoux, on a deux domaines sur des terroirs de blanc.
D'accord. Et quel type de cépage vous avez du côté de Limoux ?
Alors, à Limoux, on a Chardonnay-Chenin et je devrais dire d'abord Mosaque.
Le deuxième cépage historique.
Voilà, on avait un premier domaine autour du château. On vient d'acheter un deuxième domaine qui est dans la haute vallée de Limoux, où j'ai acheté parce qu'il y a 13 hectares de Mosaque. Et
d'accord.
Le Mosaque qui est quand même le cépage emblématique de Limoux, avec la blanquette.
Et vous faites, vous en produisez un peu des bulles ou pas ?
Alors, on ne fait pas de bulles pour l'instant parce que ça mérite un process différent et je veux vraiment contrôler complètement le process. Et donc,
peut-être plus tard, ouais. Hélène.
Tout ça nous donne effectivement des cuvées, on le disait, très très différentes. Alors on commence par quoi ? Les rouges, les blancs, on commence par parler desquels ?
Alors je pense qu'à Limoux, on doit parler d'abord des blancs et puis on pourra parler des rouges.
Mais alors on
Gord
par...
est plus connu aujourd'hui pour les blancs que pour les rouges et c'est vrai que c'est l'identité de Limoux.
Alors on attaque par Limoux et peut-être par la cuvée Oppidum qui est votre cuvée phare en blanc. Donc une vinification en barrique et en foudre. Racontez-nous, ça donne quoi dans le verre ?
Alors Oppidum, c'est vrai qu'autour du château de Gord, c'est d'abord du chardonnay, on avait peu de mosaque. Et également du chenin. Oppidum, c'est juste une volonté de faire un vin un peu d'exception. C'est 2-3 000 bouteilles par an et on choisit les meilleures barriques ou le meilleur foudre. Voilà, ça c'est Oppidum. Mais l'achat du nouveau domaine, donc il y a 2 ans, nous amène à avoir 7 hectares de chenin à 400 mètres d'altitude. Et ça va faire des vins d'exception. Donc sur le millésime 2020, déjà, on sera beaucoup plus typé chenin, voire mélange chenin-mosaque, parce que là, je m'amuse de plus en plus à vinifier des bicépages, donc en regardant des parcellaires d'altitude. Et donc, on a un foudre Stockinger, qui est le grand tonnelier autrichien, un foudre avec chenin-mosaque, très, très intéressant.
Philippe Forbach, le chenin, on pense plutôt, en tout cas pour la France, hein, spontanément à
la Loire,
hein, dans d'autres pays, c'est d'autres destinations. Mm-hmm. Mais dites-nous, ça pousse bien aussi
Oui, ça pose bien. Il y a une belle tradition déjà installée du chenin dans le sud. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a une réserve d'acidité naturelle sur ce cépage qui donne un très beau résultat et qui équilibre finalement un peu l'ensemble. Et il n'y a pas tellement d'endroits où le chenin vient bien. Et du côté de Limoux, vraiment, il y a
très
intéressant. Sinon, c'est effectivement le cépage emblématique de la Loire. On l'appelle d'ailleurs le Pinot EAU de la Loire également.
Et le rosé, est-ce que vous produisez du rosé? Parce que tout le monde produit du rosé maintenant, on ne boit que ça, quoi.
Cette année, j'ai fait en 2020, sur le millésime 2020, j'ai fait une barrique de rosé pour
c'est trop,
commencer.
Mais c'est trop, Pierre.
Il faudra le réserver à l'avance. Là.
300 bouteilles pour la consommation personnelle.
Voilà, bon, ouais, d'accord, 4000 euros la bouteille. Mais quand même, hein, c'est... Non, pas de rosé. C'est...
Vous n'avez pas le rosé. Donc c'est... il va y avoir 500 bouteilles élevées, foudre,
donc vous n'avez pas les bulles, vous n'avez pas le rosé.
Voilà. Si, il essaye.
Oui, il essaie, oui.
Ce que je fais, j'essaie de bien le faire. Donc quand je ferai bien des bulles, j'en ferai.
En blanc comme en rouge, pour l'été, vous avez une cuvée qui est très sympa, c'est la cuvée Campagne, qui se boit toute seule. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais franchement.
Avec modération, mais toute seule.
Avec modération, une bande de copains, mais n'empêche, ça se boit tout seul.
Oui, bah, Campagne blanc, c'est du chardonnay et avec une jolie fraîcheur. Et en même temps, la pâte de Gore, depuis que j'ai démarré ce projet, c'est de vendanger assez tard. Donc on a une vraie maturité, donc beaucoup de fruits. Mais Philippe le disait, l'acidité normale ou naturelle dans la région de Limoux, dans nos sols, fait qu'on trouve un bel équilibre entre une certaine maturité et derrière une jolie fraîcheur.
Donc. Est-ce qu'on peut venir vous voir, pratiquer un peu le no-tourisme? Vous avez un caveau? Vous êtes aussi sympa chez vous qu'ici?
On a un tableau. Oui, on a un tableau parce que je peins. Mais on a un caveau et on a une table d'hôte et une chambre d'hôte tenue par des amis belges. Donc on peut vous accueillir.
C'est sympa ça. Et alors vous peignez quoi? Parce que ça, c'est quand même vachement important.
De très belles étiquettes, entre autres.
Voilà, alors je fais entre autres des étiquettes, mais je fais plein de toiles. Il y a sur le domaine pour les visiteurs, ils peuvent visiter un certain nombre d'endroits personnalisés avec mes tableaux ou mes sculptures.
Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a peut-être un site internet pour voir Pierre Côté peinture.
Châteaudegore.fr.
Bon, et alors c'est quoi vous? C'est quoi? C'est un machin blanc avec un point au milieu? Qu'est-ce que vous faites?
Non, c'est assez sophistiqué, mais bon, on comprend pas toujours, mais c'est le vin de Châteaudegore.
Hélène.
Donc ça, on peut voir, comme je disais, sur les étiquettes. Moi, justement, l'étiquette de la cuvée Campagne, je l'aime bien parce que ça ressemble un peu à ce que vous disiez, mais c'est quand même un peu plus sophistiqué que ça, effectivement. On a un très joli soleil doré au milieu d'une étiquette blanche. C'est à la fois sobre, très gai. Et puis, je voudrais revenir aussi, non pas sur les étiquettes.
Puisqu'on parle de peinture aussi, je rappelle que notre ami chroniqueur depuis 30 ans, là, David Cobol de l'émission, expose ses toiles, David Cobol, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pendant tout l'été, y compris aujourd'hui, là, au château L'Arrivée au Brion. Donc là, on est en terre bordelaise, donc n'hésitez pas à aller voir le château, vous verrez un David et deux étoiles. Hélène.
C'est vrai, on revient au château de Gore. Donc la cuvée Campagne dont je vous parlais en blanc comme en rouge, d'ailleurs, elle est à 10 euros, c'est important de le souligner parce que
c'est pas cher, hein.
Ça se boit tout seul, c'est bien, mais si ça coûtait 200 euros, ça se boirait moins tout seul. Et puis, Oppidum dont on a parlé tout à l'heure est à 23, et puis on va dire un mot quand même de vos deux rouges. La cuvée pour mon père, et puis qui est à 23 aussi, et puis le château de Gore, qui est à 14. Là, ça va, on est plus tranquille en prix. Vos rouges aussi ont une vraie personnalité d'artiste.
Alors, j'ai envie de rendre hommage à mon père, parce qu'Alain m'avait invité il y a quelques années.
Il y a longtemps.
Un peu plus de 10 ans déjà, au début du projet
tout
Château
n'a
de Gore.
Tout n'a pas changé.
Voilà, mon père était encore là, il est parti depuis, et quand il est parti, c'est, je pense, grâce à lui qu'on est là, parce que sinon, je n'aurais pas eu la passion que j'ai dans le vin. Et donc, j'ai appelé la cuvée de rouge haut de gamme pour mon père. Voilà, donc on lui rend hommage.
Et ces vins, ils sont un potentiel de garde et on peut les oublier, ceux-là aussi.
C'est magnifique aujourd'hui d'ouvrir en 2007 ou en 2006. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le château de Gore a vraiment démarré ce projet en 2005. Et donc, nos vrais premiers beaux vins ont démarré en 2007. Donc aujourd'hui, je vous invite à venir et on ouvrira du 2007-2008. Pour...
Auditeur de InVino, il faut y aller. Philippe Forbach, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec un 2007, un 2008, les pépites, la collection de pierres, là, comme type de plat?
Il faut des plats... il y a plusieurs options possibles, mais ce sont des vins qui ont une magnifique maturité. Donc avec une joue de bœuf, par exemple, juste fondante, rôtie, quelques olives noires, quelques tomates confites, un petit peu de thym ou de romarin, je pense que ça peut être un très très bel accord. Mais avec un morceau de terrine juste gourmande comme ça, je suis sûr que...
Terrine de quoi? De lapin? De sanglier?
Non,
de...
Oui, non, non, de terrine de foie de volaille, par exemple, agrémentée d'un petit peu de légèrement poivré, comme il se doit, un peu de sarriette, par exemple, ça peut fonctionner pas mal du tout aussi.
Merci beaucoup, merci en tout cas à Pierre Fabre. Donc on va rappeler le site internet plutôt pour vous joindre, c'est
châteaudegore.fr.
Merci beaucoup, merci également à Francine Picard, Philippe Forbach et aux millions d'amateurs de vin, sans oublier Hélène Piau qui nous écoute avec passion chaque week-end. Un clin d'œil aussi à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Philippe, pour les blancs et les rosés de cette région, là, la température de service, c'est combien à peu près?
Alors pour les rosés, bouteilles, ça va vite, parce que pour le château de Gore, il n'y en a pas beaucoup.
500 bouteilles, oui.
Mais bon, elle est autour d'une dizaine de degrés. Et les blancs, ça dépend si c'est des blancs à boire jeunes,
ouais.
C'est bien aussi entre 9-10 degrés. Et si on goûte des vieux blancs, c'est intéressant de goûter plutôt à 12 ou 14.
Merci beaucoup. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook, le compte Instagram Invino Sud Radio. On va se retrouver en vrai un samedi 4 septembre à 12h30 pour une nouvelle émission. Nous serons délocalisés chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, vous inquiétez pas, hein, tous les week-ends, vous aurez samedi et dimanche les best-of de Invino Sud Radio. On vous laisse pas tomber, on va continuer à se régaler. D'ici là, c'est le déjeuner, on est parti. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout, respecter la plus grande des modérations. Bonnes vacances, salut.
Sud Radio Invino.